Laudetur Jesus Christus.
Le confinement en Italie prolongé au moins jusqu'à Pâques. Plus de 11 500 personnes sont mortes dans le pays du coronavirus. Mais une bonne nouvelle a été annoncée hier. Le nombre de nouveaux cas positifs n'a jamais été aussi faible. Plus 4%, c'est 4 fois moins qu'il y a 15 jours. On y revient juste après les titres. Nous nous rendrons ensuite au Venezuela qui n'est pas épargné par la pandémie. Elle vient s'ajouter aux nombreux maux dont souffre le pays. Graves pénuries alimentaires, de médicaments et une grande précarité au niveau du travail. Témoignage d'un prêtre sur place dans quelques instants. Au sommaire également, l'inquiétude du gouvernement birman face au risque d'épidémie majeure. Le pays assiste actuellement à un afflux de migrants birmans amassés à la frontière, espérant revenir dans le pays. Et puis dans notre dossier, retour sur le conflit en Syrie, l'ONU et l'Union européenne ont réclamé un cessez-le-feu sur tout le territoire, alors que le pays très vulnérable s'apprête à affronter la menace sanitaire.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, drapeau en berne, minute de silence. Ce mardi à midi, toute l'Italie va s'arrêter pour rendre hommage aux 11 591 morts de la pandémie. Sur la péninsule, où les contaminations ont dépassé la barre des 100 000 cas, les mesures de confinement strict dureront au moins 15 jours jusqu'à Pâques. Les précisions de Delphine Allaire.
Les Italiens sont confinés depuis maintenant plus de 3 semaines et le seront encore un moment. Selon le ministre de la Santé, Roberto Speranza, au moins jusqu'au lundi de Pâques, le 13 avril prochain. Lueur d'espoir, ces derniers jours, le nombre de contaminations s'aplatit sur la péninsule. Hier, la hausse des nouveaux cas positifs n'a jamais été aussi faible, avec une augmentation de 4%, moitié moins qu'il y a 4 jours, 4 fois moins qu'il y a 2 semaines. Fait notable, le nombre de personnes guéries, près de 1600, n'a jamais été aussi fort dans un bilan quotidien. Selon les autorités qui insistent sur la prudence, la tendance devrait sensiblement se confirmer les jours prochains et faire espérer plus qu'un aplatissement mais une vraie décrue d'ici 10 jours. Selon Giuseppe Conte, l'allègement des mesures courant avril ou courant mai sera dans tous les cas très progressif. En attendant, l'objectif est de tenir et donc perfuser l'économie. Rome a débloqué 25 milliards d'euros pour affronter la crise sanitaire, tandis que 400 millions vont être alloués aux plus démunis d'Italie. Dans certaines régions comme la Sicile ou la Campanie où le travail au noir est généralisé, plusieurs vols par manque de moyens ont été constatés dans les supermarchés et des bons alimentaires vont donc être distribués dans les communes.
Delphine Allaire, et à noter que le président du Conseil italien Giuseppe Conte a été reçu hier en audience privée par le pape François. À plusieurs reprises ces derniers jours, le Saint-Père avait demandé de prier pour les responsables politiques des pays fortement touchés par la pandémie. Ce matin, lors de la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape a invité à prier pour les sans-abri, pour que la société prenne conscience de leur réalité et les aide et que l'Église les accueille. Toutes les précisions à l'adresse vaticannews.fr. La France a enregistré hier 418 décès, la plus forte augmentation depuis le début de l'épidémie. Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, il est attendu en fin de semaine. Plus de 3000 personnes sont décédées à l'hôpital. Parmi elles, le journaliste Henri Tinck, observateur attentif du Vatican. Le pays manque toujours de masques. Ce matin, le président français Emmanuel Macron doit visiter une usine qui en produit près de la ville d'Angers. L'établissement tourne désormais 24 heures sur 24 pour accroître sa production. Au Venezuela, pas facile de faire respecter l'ordre de confinement pris par le gouvernement de Nicolas Maduro pour enrayer l'épidémie de Covid-19. La situation économique du pays, déjà très difficile avec de graves pénuries alimentaires, de médicaments, de carburant et de nombreuses coupures d'électricité, d'eau et de gaz et une grande précarité au niveau du travail, rend cette période encore plus dure pour une grande partie de la population. Le père Balmiro Rangel gère 2 paroisses, celle de Salvador et celle de la communauté française de la capitale. Il voit bien la difficulté pour les familles les plus pauvres de survivre en respectant le confinement. On l'écoute.
Alors, il faut rester à la maison. Bon, c'est impossible. Pour un pourcentage des villes à niveau national, c'est pas seulement ici à Caracas, les gens travaillent, ils produisent ce que donne son travail et après ils mangent. On rentre dans leur maison. Il y a une chambre, une salle à manger pour voir la télévision et la cuisine. Il y a 5 personnes. Comme ils vont rester des semaines, 2 mois enfermés, les conditions physiques on va pas permettre ça. Et c'est ça le problème. Comment ils vont rester là s'il n'y a pas d'eau? L'électricité s'en va de temps en temps. Il y a des endroits qu'il n'y a pas de gaz pour faire la cuisine. Alors dites-moi comment on va faire pour que la population obéit les conditions que donne l'Organisation mondiale de la santé.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Et toujours concernant le Venezuela, le président Nicolas Maduro a sollicité hier l'appui des chefs d'État et de gouvernement du monde entier face aux accusations de narcoterrorisme lancées par les États-Unis. Il dénonce une persécution insolite et arbitraire. Washington avait offert la semaine dernière 15 millions de dollars pour toute information permettant son arrestation. Le Mexique n'est pas épargné par la pandémie de Covid-19 face à l'augmentation du nombre de cas, plus de 1000 désormais. Le gouvernement a prolongé hier l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 avril. En Birmanie, 14 cas confirmés de coronavirus et un risque d'épidémie majeure. C'est la mise en garde du ministère de la Santé devant l'afflux depuis plusieurs jours de migrants birmans voulant revenir en Birmanie. Des milliers d'entre eux sont rentrés depuis plus de 10 jours de Thaïlande, craignant la fermeture des frontières ou à cause du manque de travail. À Rangoon, Sarah Bakaloglou.
Depuis plusieurs jours, les images ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux en Birmanie, celle d'une foule de migrants birmans agglutinés à la frontière pour revenir dans le pays, certains escaladant même les grillages avant de se disperser dans plusieurs régions où les structures de santé sont très faibles. Depuis mi-mars, plus de 20 000 travailleurs birmans, certains disent 30 000, sont arrivés par les postes frontières officiels de Thaïlande qui compte de son côté plus d'un millier de cas de coronavirus sur son territoire. Des arrivées inquiétantes pour les autorités birmanes qui dimanche ont annoncé un cas positif au Covid parmi ceux qui sont rentrés, puis un autre. À la frontière, les autorités ont d'abord demandé aux migrants revenant de se mettre en quarantaine à domicile, un ordre presque impossible à faire respecter faute de moyens. Des centres de quarantaine ont ensuite été mis en place à la frontière, mais beaucoup de travailleurs sont déjà rentrés chez eux. Le gouvernement birman a donc prévenu qu'il y a un risque d'épidémie majeur et il durcit ses mesures depuis quelques jours. Les vols internationaux sont suspendus jusqu'à mi-avril. À Rangoon, Sarah Bakaloglou, RFI pour Radio Vatican.
La Corée du Nord menace d'interrompre les négociations avec les États-Unis. Entendre la rhétorique ridicule de Mike Pompeo nous a fait renoncer à tout espoir de dialogue, a déclaré hier un responsable chargé des pourparlers avec les États-Unis. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain avait appelé les membres de la communauté internationale à demeurer déterminés à exercer des pressions diplomatiques et économiques sur la Corée du Nord, tout en appelant Pyongyang à renouer le dialogue. Les deux pays sont toujours dans l'impasse sur le dossier nucléaire. Washington a toutefois offert son aide à Pyongyang pour combattre le coronavirus. Aux États-Unis, alors que le Covid-19 poursuit sa progression et que le nombre de morts a franchi hier le cap des 3000, un navire hôpital militaire de 1000 lits et de 12 blocs opératoires est venu soulager New York. Il doit permettre de décharger les hôpitaux de la ville, particulièrement touchés, de malades ne nécessitant pas de soins liés au coronavirus. L'épidémie de Covid-19 progresse aussi en Israël. Le pays enregistre quelque 4500 cas et 16 décès. Les autorités s'inquiètent en particulier de l'attitude de la communauté ultra-orthodoxe qui respecte difficilement les mesures imposées, obligeant le gouvernement à sévir. Les précisions depuis Tel Aviv de Luca de Villepin.
Patrouille, contrôle, arrestation, la police israélienne passe à la vitesse supérieure dans les quartiers ultra-orthodoxes. Objectif, faire respecter les mesures de confinement jusque-là peu appliquées par cette communauté. Les Haredim en hébreu se caractérisent par leur méfiance à l'égard des autorités et leur déconnexion vis-à-vis des médias. Mal informés, mais aussi mal protégés, la mise en quarantaine des personnes contaminées s'avère en effet difficile dans des familles souvent très nombreuses. Conséquence en Israël, plus de la moitié des malades du Covid-19 sont ultra-orthodoxes. Ils ne représentent pourtant que 12% de la population. Avec plus de 500 cas, la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, en banlieue de Tel Aviv, est l'un des foyers de l'épidémie. Le ministre de la Santé, lui-même figure de la communauté, a demandé son confinement total à Benjamin Netanyahou. La décision n'a pas encore été arrêtée, mais l'armée pourrait être déployée dans les rues pour faire respecter les consignes. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou engagé dans la formation d'un nouvel gouvernement qui a été testé négatif hier au coronavirus. Un cessez-le-feu pour toute la Syrie, c'est ce qu'ont réclamé le week-end dernier l'ONU et l'Union européenne après près de 9 ans de guerre qui a fait 400 000 morts et un conflit qui se poursuit dans la province d'Idleb. C'est en effet une Syrie très vulnérable qui s'apprête à affronter la menace sanitaire. La moitié des hôpitaux du pays sont à l'arrêt. Ceux qui se situaient dans les zones rebelles ont été bombardés et détruits par les aviations syriennes et russes. Depuis la fragile trêve signée début mars entre la Russie et la Turquie, l'on observe pourtant une légère accalmie dans la province d'Idleb. Pour autant, toutes les cartes maîtresses de cette crise syrienne, muée depuis bien longtemps en crise internationale, sont entre les mains de Moscou et d'Ankara. Les Russes perfusent le régime de Damas avec l'appui iranien. La Turquie organise et centralise les forces rebelles. L'analyse de François Burga, politologue spécialiste du monde arabe au CNRS.
On sait que le régime n'a pas la capacité militaire à tenir son pays s'il n'est pas massivement perfusé par des forces étrangères. On sait que même dans les zones récupérées par le régime, qui sont à nouveau passées sous le contrôle du régime, par exemple à Daraa, dans le sud, il y a à nouveau une agitation protestataire. Donc, sans la logistique aérienne massive du régime, sans la perfusion iranienne, technologique, etc., le régime n'a pas la capacité de tenir. Les forces turques sont bien évidemment dans une position beaucoup plus favorable, et c'est bien l'offensive turque, c'est bien le coup de poing sur la table du président turc pour stopper l'offensive syro-russe qui a fait basculer la logique de l'évolution. Donc le président turc est en meilleure posture, mais il a tout de même éprouvé le besoin de mettre la pression sur les Européens en leur disant « vous ne voulez pas m'aider à contenir la poussée russe et syrienne, eh bien je vais employer l'arme du flux migratoire ». Il a permis à ces centaines de milliers de personnes qui rêvent de sortir d'Idlib de se concentrer sur la frontière grecque.
La trêve signée début mars entre la Russie et la Turquie est-elle durable ?
Il y a une relation forte qui s'est manifestée, pas seulement en Syrie, mais même en Libye. Je pense que le dénominateur commun de ces deux pays, qui ne sont pas du tout dans le même camp, c'est qu'ils aiment beaucoup faire des choses en se passant du consensus occidental. On est bien obligé de constater que les accords d'Astana, les premiers accords qui devaient faire de la région d'Idlib une zone protégée durablement, ont échoué. Donc on sait bien qu'il y a déjà eu un premier échec. Il y a une accalmie, il faut le dire. Il y a une accalmie dans les bombardements depuis 8-10 jours. C'est le seul point positif dans ce paysage très très noir de la situation dans la région.
Quel avenir peut-on entrevoir pour Idlib et ses habitants?
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'Idlib, c'est pas rien. Près de 4 200 000 personnes. Donc c'est pas un épiphénomène dans ce conflit en termes de masse de population. Bon, sur le papier, il y a une dynamique que personne n'a réussi pour l'heure à stopper, qui est celui de la reconquête militaire par Damas de l'intégralité de son territoire. Cette dynamique implique qu'une majorité des résistants de toute couleur politique, on dit le bastion djihadiste, c'est l'endroit où absolument toute l'opposition armée, défaite après défaite, s'est regroupée. Cette crise n'est plus syrienne, cette crise est internationale, elle l'était depuis le début, depuis les premières semaines, mais elle l'est plus que jamais. Détiennent les cartes essentielles, une fois de plus, les Russes et les Turcs. Eh bien, j'avoue qu'il est très difficile de dire maintenant comment le rapport de force va évoluer à court terme.
Et alors si on revient au plan syrien interne, après 9 ans de guerre, le conflit est terminé dans toutes les autres parties du pays. Comment, dans ces zones-là, et dans quelles conditions est en train de s'opérer la reconstruction ?
La reconstruction, ça voudrait dire la reconstruction du tissu politique pour que les gens qui sont à l'extérieur aient des raisons sérieuses de vouloir venir, même dans le cadre d'une défaite, participer à la reconstruction. Et malheureusement, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas de reconstruction du tissu politique, et encore moins du tissu immobilier à Alep, tant que ce permis de tuer est accordé au régime par la communauté internationale, parce que ce permis de tuer est accordé à Bachar el-Assad par les Russes et par les Iraniens. Moscou considère que la somme des avantages qu'il y a à maintenir Bachar est supérieure à la somme des inconvénients. C'est Moscou actuellement qui a les clés de l'évolution de la crise syrienne. S'il décide de se passer de Bachar el-Assad, s'il décide de participer à la recherche d'une solution politique, on peut imaginer que quelque chose de positif se déroule dans ce pays.
Interrogé par Delphine Heller, François Burga, politologue spécialiste du monde arabe au CNRS, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 13h. Je vous souhaite une très belle matinée et prenez soin de vous. Au revoir.